La grande matinale.
Ivico Amaizo, alors ce lundi 26 mars, vous nous parlez de l'économie mondiale. Où en est la croissance économique mondiale, justement?
Vous savez, la croissance économique mondiale, elle est de 3,8% en 2011, d'après les chiffres du Fonds monétaire international. Et vous savez que cette organisation, qui est située à Washington, dans ses statistiques de janvier 2012, prévoit une baisse à 3,3% en 2012, avec une remontée 3,9% en 2013. Sauf que, après avoir étudié beaucoup ces statistiques, il y a toujours des marges d'erreur, estimées à moins 0,6% en moyenne. Et cette organisation, le FMI, donc, tend toujours à être un peu plus optimiste, surtout pour les pays qui les arrangent. Alors quand vous enlevez ces marges d'erreur, ben, je crois qu'il vaut mieux tabler sur un tassement de la croissance économique mondiale autour de 2,7% en 2012, en 2012 et 3,3% en 2013. Donc, en fait, on peut en déduire une économie mondiale plutôt convalescente. Plus précisément les pays riches industrialisés. Parce que je pense que ces pays seront vraisemblablement en récession, ou pas loin, surtout si on prend en compte une inflation estimée à 1,6 et une croissance dans ces pays donc industrialisés riches, dont la France, à 1,2. On sait que la France ne va pas l'atteindre. Donc il faut constater une réelle perte collective de pouvoir d'achat. J'insiste beaucoup dessus, parce que cette croissance-là vous donne toujours des chiffres plus ou moins positifs, mais au fond, ce qui est important, c'est ce qui vous reste dans la poche pour manger, pour vivre, hein, tout simplement, mieux dans la situation où vous êtes. Alors, tout le monde dit que la situation devrait s'améliorer en 2013, avec une inflation mondiale à 1,3% et une croissance économique mondiale à 1,9%. Peut-être une légère amélioration du pouvoir d'achat, excusez-moi, mais tout ça là, en 2013, c'est quand même déjà loin quand on fait une analyse conjoncturelle. Donc, le vrai problème, c'est que ça cache des graves inégalités entre les populations et dans les pays. Le seul critère économique qui demeure invariant, donc il ne bouge pas, en fait, consiste à toujours baisser le salaire des travailleurs. Surtout ceux qui ont le moins de chances de contester quoi que ce soit. À terme, la course vers le bas salaire pourrait se révéler fonder les futurs printemps arabes en Afrique. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que tout le monde croit que la compétition est basée sur ces bas salaires. Alors revenons à l'Afrique subsaharienne. Là, on dit que la croissance est autour de 5,5% en 2012, 5,3% en 2013, ce qui est très bien. En ajustant avec les marges d'erreur dont j'ai parlé tout à l'heure, cette croissance, il faut plutôt la réviser un tout petit peu à la baisse. Ce sera plutôt 5,2% en 2012 et 5,1% en 2013. Dans tous les cas de figure, c'est mieux que la moyenne mondiale. Donc l'Afrique subsaharienne soutient donc la croissance mondiale. On l'oublie trop souvent d'ailleurs. L'inflation dans ce grand territoire demeure pourtant élevée. 9,4% pour 2011 et 6,8% si on enlève les marges d'erreur. Donc ce différentiel permet de nous dire clairement qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat. En tout cas, il est plutôt négatif. Pourtant, tout le monde veut y aller là-bas, vers cette Afrique, entre guillemets, émergente. Il y aura une amélioration, lente, mais souvent les arbitrages des dirigeants africains reposent encore trop souvent sur des considérations et des injonctions venant de l'étranger, au point d'oublier qu'ils sont élus ou mal élus pour servir en priorité les citoyens africains. Mmh. Alors, que cache l'ensemble de ces chiffres-là? C'est une grande question.
Le Fonds monétaire international copie-t-il les méthodes chinoises et lesquelles, Ivico Amaizo?
Vaste question. Madame Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, a rappelé à Beijing le 17 mars 2012 qu'il y a en fait trois vulnérabilités économiques et financières, ce que les économistes appellent les risques pour l'économie mondiale. Le niveau d'endettement élevé sur les marchés des pays riches développés, donc vraiment un niveau d'endettement, on le voit avec l'Union européenne. L'augmentation du prix de l'énergie, notamment le prix du pétrole. On a dépassé les 2 euros dans certaines stations de Paris. Et puis le ralentissement même des économies émergentes à moyen terme. Donc la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil ne vont pas continuer comme ça à avoir un taux de croissance aussi élevé. Quand vous cumulez les trois, il faut s'apercevoir qu'au fond, il y a quand même quelqu'un qui tire toute cette mécanique vers le haut. Il s'agit de la Chine. Je l'appelle le grand sauveur en dernier ressort, que de nombreux responsables occidentaux refusent de reconnaître publiquement. Parce qu'ils prennent l'avion pour aller les voir là-bas en Chine. Donc, le DG du Fonds monétaire international a rappelé que la situation mondiale, pendant et après la crise financière de 2007-2008, aurait pu être pire si la Chine n'était pas intervenue massivement dans l'économie chinoise. Je dis bien dans l'économie chinoise, c'est-à-dire que la Chine a réinvesti 4000 milliards de yuan, soit 635 milliards de dollars, dès la fin 2008. C'est une intervention massive de l'État chinois dans sa propre économie. Et ça a contribué à soutenir la croissance économique et la stabilité, non seulement en Chine, mais au plan mondial, puisqu'après tout, ils fabriquent, ils vendent, et les gens venaient faire des affaires en Chine, et ça a permis d'augmenter le pouvoir d'achat des Chinois, qui donc achetaient les produits de la plupart des usines occidentales qui vendaient là-bas. Imaginez des produits ménagers qui se vendent en Chine. Je ne veux pas dire les marques ici, mais il y a quand même 2-3 grandes sociétés françaises qui, sans la Chine, n'existaient pas aujourd'hui. En vérité, le Fonds monétaire international a choisi de copier les méthodes chinoises en identifiant 3 priorités en termes d'arbitrage que les autorités chinoises ont fait. Donc je dis bien, ce sont les autorités chinoises qui ont choisi une certaine méthode de gouvernance que le Fonds monétaire international est en train de copier. De quoi s'agit-il ? Un, ils ont d'abord décidé de soutenir la croissance économique, ce qui n'est pas toujours évident quand on regarde la politique de l'Union européenne actuellement. Ils veulent réorienter les investissements à l'exportation vers l'intérieur, en misant sur la consommation intérieure. Ça veut dire qu'ils sont, la consommation intérieure suppose que vous êtes des pouvoirs d'achat. Voilà pourquoi je parlais de pouvoir d'achat tout à l'heure, et je ramenais la notion de pouvoir d'achat qui augmente ou qui baisse, mais de l'économie mondiale. Et trois, il fallait aussi prendre conscience des inégalités croissantes en réorientant la richesse créée en Chine vers un plus grand nombre de Chinois. Et ça, malheureusement, on ne le voit absolument pas dans l'Union européenne. Cette réorientation, dès que vous en parlez, c'est des histoires de dormir debout, vous êtes traité de gauche, vous êtes traité d'extrémiste, etc. Alors pourtant, c'est un problème simplement économique. Il s'agit de trouver un moyen que plus de monde ait un pouvoir d'achat et donc de sur cette base-là, puisse accéder à la consommation et du coup relancer l'économie par la consommation. En réalité, Madame Lagarde, au nom des pays occidentaux d'ailleurs, puisque ce sont ces pays occidentaux qui dominent le conseil d'administration du Fonds monétaire international, donc Madame Lagarde a rappelé aux autorités chinoises de ne pas penser qu'aux citoyens chinois, mais à l'ensemble des citoyens du monde. Et bien sûr, en commençant paradoxalement par les pays riches. Alors quand le FMI rappelle qu'il faut travailler pour le même objectif, afin de réussir ensemble cette remontée et cette stabilité mondiale, il y a comme un vent de mea culpa. La Chine n'oublie pas pour autant de soutenir l'Afrique. Dès lors que le combat contre la corruption et le respect des engagements par les autorités africaines sont au rendez-vous. Ce serait encore mieux si la Chine soutenait plus les Africains et moins les États africains. C'est à cette condition que le Fonds monétaire international pourrait reconnaître la Chine comme un G1 incontournable. Parce qu'il faut le savoir, au G20, il y en a bien un qui a le mot de fin, c'est la Chine.
Merci Yves Ekwamaizo pour cette première chronique de la semaine sur Africa numéro 1.